Bonjour à tous, nous retrouvons Monseigneur de Germay aujourd'hui pour commenter un certain nombre de sujets d'actualité. Bonjour Monseigneur.
Bonjour Raphaël.
Le pape François a reçu au Vatican le président de la République française, Emmanuel Macron, tout récemment. Comment analysez-vous cette rencontre et correspond-elle à ce que pouvaient en attendre les chrétiens ?
Alors, c'est vrai que le président français s'est rendu au Vatican. Il n'était pas tout seul, hein. Il était avec une délégation d'une quinzaine de personnes, dans laquelle se trouvait le ministre de l'Intérieur, ce qui est normal, puisque c'est le ministre des Cultes. Et puis aussi, on peut noter la présence au sein de cette délégation de Madame Véronique Fayet, qui est la présidente du Secours catholique. Alors, le motif, entre guillemets, de cette visite, c'était d'abord de la prise de possession de son titre de chanoine d'honneur de la basilique Saint-Jean du Latran. Bon, c'est un titre honorifique, mais qui est traditionnellement attribué au chef de l'État français. Bon, tous les présidents de la République française ne sont pas allés recevoir ce titre, mais certains l'ont fait. C'était le cas aussi de président Sarkozy. Et donc, et alors évidemment, ce côté un peu traditionnel, disons, a été l'occasion d'une rencontre avec le pape, d'un échange privé avec le pape, une rencontre au cours de laquelle les bonnes relations entre le Saint-Siège et la France ont été soulignées, mais aussi l'engagement de l'Église dans la promotion du bien commun de chaque pays. Alors, diverses questions ont été évoquées au cours de cet échange, qui a duré, il faut quand même le noter, presque une heure, hein, ce qui est un peu un record pour la durée d'un entretien du pape avec un chef d'État. Parmi les questions évoquées, il y a eu la protection de l'environnement. On sait que ça tient beaucoup à cœur au pape. La question des migrations, c'est aussi une question qui est très importante pour lui et puis qui est vraiment d'actualité. On en reparlera tout à l'heure. La question de l'engagement au niveau multilatéral pour la prévention et la résolution des conflits. La question du désarmement. Les perspectives, bien sûr, du projet européen. Donc, il y a eu un peu tous ces sujets qui ont été abordés, et des questions plus précises des échanges sur les situations de conflits, tout particulièrement au Moyen-Orient et en Afrique. Alors, à l'issue de cette rencontre, lors d'une conférence de presse, le président Macron a insisté sur l'importance du lien entre la France et les religions, en précisant que ce lien n'était pas du tout incompatible avec la laïcité. Parce que, selon le président Macron, la laïcité n'est pas une lutte contre la religion, ni, a-t-il dit, une pudibonderie contemporaine, c'est-à-dire, comment dire, une peur, si vous voulez, de voir les religions, comme si on ne voulait surtout pas voir les religions, comme si elles devaient se cacher. Alors, que penser, pour venir à votre question, que penser de cette visite en tant que catholique? Je dirais que elle se situe dans la ligne du discours du président Macron aux Bernardins. Hein, vous vous souvenez de ce discours du président de la République aux évêques français, qui a présenté une vision, on peut dire, ouverte de la laïcité, une volonté de dialogue. Maintenant, est-ce que cette rencontre avec le pape aura des effets sur la politique française? Bon, ça, c'est une autre question, mais peut-être que l'avenir nous le dira.
Monseigneur, les sœurs de Notre-Dame de la Merci, très actives à Ajaccio, quittent l'île pour de nouvelles missions. Comment avez-vous perçu leur action et qui pourrait les y relayer ensuite?
Alors, d'abord, je voudrais dire que ce départ, c'est quand même un arrachement, hein, je dirais, pour elles et pour nous. C'est quand même, il faut le dire, une tristesse, à la fois une action de grâce, hein, pour tout ce qu'elles ont réalisé pendant ces années, et on ne manquera pas de les remercier, ça a déjà commencé. Mais c'est vrai que c'est quand même une tristesse de les voir partir. Les Sœurs de la Merci, peut-être c'est bon de le rappeler, étaient présentes en Corse depuis 1890, donc c'est pas rien. Alors, c'est vrai qu'elles avaient dû quitter l'île en 2010, puisque, dont j'imagine que beaucoup de nos auditeurs le savent, elles étaient très présentes au foyer Notre-Dame à Ajaccio. Et puis, ce foyer a été récupéré par le Conseil Général pour en faire transformer en EHPAD. Donc, elles étaient parties en 2010. C'était 2 ans avant que j'arrive en Corse. Et lorsque je suis arrivé, j'ai pu, grâce à la Providence, les faire revenir en Corse. Et donc, elles se sont installées à l'évêché. On avait fait des travaux. Hein, pour leur faire un lieu pour pouvoir les accueillir ici à l'évêché. Et elles avaient, si vous voulez, 3 missions. D'abord, une présence religieuse au sein de l'évêché, hein, avec la présence bien sûr pour à la messe, l'office, les vêpres, l'adoration, etc. Donc cette présence de prière au sein de l'évêché qui pour moi est très importante. Elles étaient engagées surtout le matin en semaine dans l'enseignement catholique, différentes écoles, hein, en particulier nos écoles catholiques d'Ajaccio, c'est-à-dire qu'elles ont été surtout au début très présentes à Saint-Paul, au collège lycée Saint-Paul, et puis après surtout à Notre-Dame de l'Assomption et à Saint-Joseph, avec, je crois, une présence très appréciée par les enfants, bien sûr, mais aussi par les familles et par toute la communauté éducative de ces écoles. Et puis l'après-midi, elles étaient surtout au service des malades, et là, elles ont fait aussi un très beau travail dans la discrétion, souvent, hein, en allant visiter les malades, aussi bien à Casteldouche, à Notre-Dame de la Miséricorde, à l'hôpital Eugénie, un peu partout, avec beaucoup de disponibilité, et puis une présence qui touche. Hein, pour une personne malade, recevoir une religieuse, c'est pas rien. On a eu d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps, une journée sur la pastorale de la santé. On a eu des petits groupes de partage et j'ai eu la chance d'être dans un groupe de partage où il y avait une sœur de la Merci qui donnait de très beaux témoignages, hein, de ce qui peut se vivre parfois dans une chambre d'hôpital, hein, où vraiment l'Esprit Saint est présent, je dirais. Et donc, elles ont fait vraiment un très beau travail pendant toutes ces années. Alors maintenant, eh bien, que faire une fois qu'elles seront parties? Bon, bien sûr, nous sommes à la recherche d'une communauté religieuse pour les remplacer, mais il faut aussi, et ça je profite de l'occasion pour le dire à ceux qui nous écoutent, on a aussi besoin de laïcs, hein. La pastorale de la santé n'est pas réservée aux personnes consacrées, alors ça existe déjà, Dieu merci, hein, mais il faudrait davantage de personnes laïques qui donnent un peu de leur temps pour aller visiter les personnes malades, mais c'est vrai aussi pour l'engagement auprès des enfants dans la catéchèse, les aumôneries de jeunes, etc. On a vraiment besoin aujourd'hui et on aura de plus en plus besoin de laïcs qui se forment et qui se rendent disponibles pour prendre leur part dans la mission de l'Église. Donc c'est un peu aussi un appel que j'envoie sur les ondes.
La présence de religieuses a longtemps été traditionnellement forte en Corse et notamment à Ajaccio. Pourquoi semble-t-elle plus difficile à assurer aujourd'hui ?
Ah ben, vous savez, il ne faut pas se voiler la face. Hein. L'Europe est touchée de plein fouet par la sécularisation et la Corse n'échappe pas à ce phénomène. Donc la foi elle baisse. Hein. Et on constate aujourd'hui, en Corse comme en Europe, une baisse de la pratique, une baisse donc de la transmission de la foi aux jeunes, et naturellement une baisse des vocations. Tout ça, ça va ensemble. Hein. C'est vrai que pendant longtemps, l'Europe a envoyé des missionnaires pour évangéliser des pays lointains, hein, en Afrique, en Asie, etc., dans des pays où la foi n'existait pas. Hein. Et grâce à ces missionnaires, ces pays ont été christianisés relativement rapidement, d'ailleurs, parfois. Bon, ceci dit, il a fallu souvent du temps avant que ces pays voient naître des vocations locales. Pendant longtemps, elles ont tenu parce qu'il y avait les Pères Blancs, par exemple, ou bien d'autres, hein, qui ont assuré, si vous voulez, que ces vocations religieuses étaient assurées par, que ce soit les prêtres ou des religieuses, par des gens qui venaient d'ailleurs. Et puis, peu à peu, dans ces pays, eh bien, on a vu naître et on voit naître des vocations religieuses locales. Et maintenant, il y a quand même certains pays, je pense à l'Afrique, hein, en particulier, où il y a beaucoup de vocations. Parce que c'est très important qu'il y ait des vocations locales. Un pays ne peut pas vivre simplement grâce à des vocations venues d'ailleurs. D'ailleurs, on peut dire que d'une certaine façon, une terre n'est vraiment évangélisée que lorsqu'elle fournit, entre guillemets, ses propres vocations. Alors, en Corse, comme dans de nombreux pays d'Europe, je dirais que le mouvement s'est inversé. Aujourd'hui, nous ne produisons pas, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais vous voyez ce que je veux dire, nous ne produisons plus suffisamment de vocations religieuses. Pensez qu'en Corse, il y a un seul séminariste. Bon. Et donc, nous devons faire appel à des vocations étrangères. Donc, on voit bien, ici en Corse, nous avons, grâce à Dieu, des prêtres ou des religieux qui viennent d'ailleurs, que ce soit de Pologne, que ce soit d'Afrique ou d'ailleurs. Hein. Et d'une certaine façon, ils viennent nous réévangéliser. Hein. Il faut regarder la réalité telle qu'elle est. Alors, Bien sûr, moi, en tant qu'évêque, je fais appel à ces vocations étrangères. J'essaie de trouver des prêtres ou des religieux, des religieuses dans d'autres pays. Mais en même temps, vous voyez bien que l'urgence, c'est aussi de réveiller notre foi hein, pour que naissent des vocations locales. On a besoin de prêtres corses, on a besoin de religieux, de religieuses corses. Et donc, ça passe, je pense, par une prise de conscience que un pays ne demeure pas chrétien si la foi n'est plus pratiquée et transmise. Hein, c'est ça qu'il faut retrouver aujourd'hui. On ne peut plus continuer à dire bon, on est croyant, non pratiquant. Ça, c'est la mort de la foi dans un pays. Vous voyez. Donc, il faut retrouver cet élan. Alors, Dieu merci, il y a des prises de conscience que je constate, il y a des choses qui sont en train de bouger, mais et en particulier en famille, il faut transmettre la foi en famille et pas se contenter d'envoyer l'enfant au caté comme on le met au sport ou à la musique. Hein. Et si la foi est vivante, alors nous allons voir des vocations. D'ailleurs, je crois pouvoir dire qu'actuellement, il y a un frémissement. Hein. Je connais maintenant quelques jeunes qui se posent vraiment des questions de vocation, que ce soit pour devenir prêtre, que ce soit aussi des vocations religieuses. Mais voilà, il faut vraiment aller dans ce sens et prier en même temps pour les vocations.
Un sommet européen important s'est tenu à Bruxelles les 28 et 29 juin. La question de la solidarité européenne, chère aux fondateurs, l'évolution migratoire et l'équilibre de la zone euro, tout cela était au cœur de cette rencontre. Quel regard chrétien et de citoyen portez-vous sur l'Europe actuelle et son avenir ?
D'abord, avant de parler de l'avenir, je voudrais préciser que l'idée des pères fondateurs de l'Europe était de favoriser vraiment la paix et la réconciliation en Europe. Hein, vous connaissez ce qui s'était passé avec toutes ces guerres auparavant. Et si les pères fondateurs ont commencé, je dirais, à construire l'Europe sur des accords commerciaux, hein, ça a commencé avec la production de charbon et d'acier, ce n'était pas pour réduire la construction européenne à des questions économiques, mais parce qu'ils avaient bien compris que le charbon et l'acier, c'était les deux matières premières nécessaires pour la fabrication des armements. Et donc, ces accords, au fond, constituer une sorte d'obstacle à toute initiative unilatérale de guerre. Hein. De fait, j'allais dire, ça a marché. Hein. Et puis, peu à peu, l'Europe a pu relever ce défi de la paix et de la réconciliation. Alors, aujourd'hui, du temps a passé, la communauté européenne s'est élargie, elle s'est dotée de nouvelles institutions. L'Union européenne, avec ses 28 membres, est un édifice complexe, souvent critiqué pour sa technocratie. Mais on peut dire quand même que la façon dont l'Europe a réussi à surmonter ses divisions reste un cas unique dans le monde et cela lui confère une responsabilité unique. Je rappelle ce que disait Jean-Paul II, hein, qui avait écrit un texte important sur l'Europe. Il disait « L'Europe ne saurait se replier sur elle-même. Elle ne peut ni ne doit se désintéresser du reste du monde. Elle doit au contraire garder pleine conscience que d'autres pays, d'autres continents attendent d'elle des initiatives audacieuses pour offrir aux peuples les plus pauvres les moyens de leur développement et de leur organisation sociale et pour édifier un monde plus juste et plus fraternel. » J'ai cité cette citation parce que je pense qu'elle est tout à fait d'actualité. Hein. Et pour revenir au sommet européen dont vous parlez, tout récent, il semble que les États membres aient réussi à surmonter leurs différences d'approche pour signer un accord. Et donc, on s'oriente vers une gestion commune de cette crise des migrations, avec plusieurs volets. D'abord, une action auprès des pays, entre guillemets, exportateurs, hein, pour freiner ce mouvement à la source. Hein. Et je rappelle à ce sujet que l'Église considère que si le fait d'émigrer est un droit, il existe en même temps un droit de rester dans son pays d'origine. Hein. Ça veut dire qu'il faut s'attaquer aux causes qui poussent les gens à quitter leur pays. Hein, parce que, effectivement, sinon, ça contribue à ces flux migratoires désordonnés qui peuvent être non seulement imprévisibles, mais dangereux. Un autre axe, si vous voulez, de cet accord européen, c'est un renforcement des frontières extérieures de l'Union européenne. Et là, bon, tout le monde est tombé d'accord. Ce qui sera intéressant, évidemment, pour les pays qui sont à l'extérieur de l'Union européenne, c'est que ce renforcement, il sera financé par l'ensemble de l'Europe. Hein. Mais aussi la mise en place de plateformes de débarquement en dehors de l'Union européenne, en particulier en Afrique du Nord. Là, l'idée, si vous voulez, c'est d'éviter que les gens aient à passer entre les mains de ces passeurs peu scrupuleux, et donc d'anticiper leur venue. Et puis aussi la mise en place de centres contrôlés en Europe, principalement dans les pays du Sud, hein, parce que c'est surtout eux qui accueillent les migrants, pour, j'allais dire, entre guillemets, faire le tri et voir entre ceux qui devront peut-être retourner dans le pays d'origine parce qu'ils sont dans une situation irrégulière, et ceux qui sont de véritables demandeurs d'asile. Alors, ça ne résoudra pas tout, mais je dirais que c'est quand même un pas vers une solidarité européenne dans ce domaine.
Eh bien, Monseigneur, merci. Nous vous retrouverons prochainement sur les ondes de RCF Corsica pour commenter à nouveau l'actualité.
Merci, à bientôt.